Chers frères et sœurs et chers amis, ceci est la deuxième partie du manifeste pour les chrétiens. La deuxième partie. Et demain, nous aurons la troisième partie, la fin donc de cette étude concernant le manifeste pour les chrétiens. Aujourd'hui, nous arrivons à douzièmement. Douzièmement, nous avons l'essence de la société. La société consiste d'individus formés par Dieu et de groupes redevables à Dieu et à ses lois. Nous affirmons que la société consiste d'individus et de groupes. Tous les individus en tant que créatures de Dieu sont équitablement redevables à sa seule loi impartiale, sans respect de l'âge, du genre, de la classe, de l'ethnique ou de l'appartenance religieuse. La société doit donc être régulée par une loi impartiale qui demande la responsabilité individuelle. Chaque individu, toutefois, est unique et inégal dans son niveau d'obéissance à Dieu, ainsi que dans ses capacités et ses dons, offices et responsabilités. De plus, les groupes ethnoculturels, elles sont formées par Dieu et sont collectivement responsables et jugées par lui. De tels groupes doivent conformer leurs valeurs, leurs lois, leurs actions et institutions à la loi de Dieu telle qu'elle est révélée dans la Sainte Bible. Chacune de ces groupes a le devoir et le droit à la liberté et la détermination personnelle sous Dieu. Cette liberté ne peut être perdue que par une incroyance persistante et une rébellion contre la loi de Dieu. Premièrement, nous avons impartialité légale. L'impartialité légale. Il est dit, il n'y aura qu'une seule loi pour vous et pour les étrangers qui séjournent avec toi. Nombre, chapitre 15, verset 15, ainsi que Saint Luc, chapitre 24, verset 22. Deuxièmement, un homme confie ses biens à chacun de ses serviteurs selon ses capacités. Saint Matthieu, chapitre 25, verset 14. Nous avons des dons différents. Romains, chapitre 12, verset 6. Lorsque le Très-Haut donna aux nations leur héritage, donc lorsque Yahvé l'Éternel a donné aux nations leur héritage, quand il répartit les fils de l'homme, il a fixé les limites de l'homme selon le nombre des fils de Dieu. C'est écrit dans Deutéronome, chapitre 32, verset 8. Ainsi, vous pouvez aussi noter Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 26. Et quatrièmement, il y a le jugement sur les peuples. Quant à mes mauvais voisins, je vais les arracher de leur sol. Mais après les avoir arrachés, à nouveau, je les ramènerai chacun à son héritage. Et s'ils apprennent avec soin les lois de mon peuple de façon à jurer par mon saint nom, alors ils seront établis. Mais s'ils ne veulent pas écouter, je les exterminerai entièrement, dit le Seigneur. Jérémie 12, verset 14, ainsi que Romains, chapitre 13, verset 2. Treizièmement, nous avons l'essence de l'Église. Nous affirmons que bien qu'il existe beaucoup de manifestations théologiques et de dénominations chrétiennes, en réalité, il n'existe qu'un seul corps du Christ. Je dis bien, il n'existe qu'un corps du Christ auquel tous les chrétiens appartiennent dans l'indivisible unité d'une seule foi. L'unité de l'Église est donc rendue visible A, par la discipline, oui, la discipline de l'Église, qui est respectée par toutes les véritables Églises. B, la table du Seigneur, elle est ouverte à tous les vrais croyants. Et C, la proclamation fidèle de la seule foi évangélique qui établit la seule loi de Dieu. Nous avons donc C, la proclamation fidèle de la seule foi évangélique qui établit absolument la seule loi de Dieu. L'unité visible de l'Église, elle ne détruit pas la réelle diversité que Dieu a créée. Donc, premièrement, car de même que notre corps, en son unité, possède plus d'un membre de différentes fonctions, nous ne formons qu'un seul corps dans le Christ, étant chacun pour sa part, membres les uns des autres. Je dis bien membres les uns des autres. Alors là, vous pouvez noter Romains chapitre 12, verset 4, ainsi que 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 et 13. Mais s'il n'écoute pas, prends encore avec toi un ou deux autres pour que toute affaire, qu'elle puisse être décidée sur la parole de deux ou trois témoins, confirmée par Deutéronome chapitre 19 verset 15. S'il refuse de les écouter, c'est ce que dit le verset que nous allons voir. Je répète, s'il refuse de les écouter, alors dis-le à la communauté. Et encore, s'il refuse d'écouter même la communauté, alors qu'il soit pour toi comme un païen et les publicains, confirmé par saint Matthieu chapitre 18 verset 15, ainsi que 1 Corinthiens chapitre 5. Et deuxièmement, l'unité est trinitaire. Un exemple. Il y a une véritable diversité dans l'unité confessionnelle et pas nécessairement bureaucratique ou hiérarchique. Je ne prie pas pour eux seulement, mais je prie aussi pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croient par exemple, on peut dire qu'ils croient, et là on peut prendre l'exemple les futurs croyants, oui, car il est dit en moi afin que tous soient un, que tous soient un en Christ. Et ensuite, Père, comme vous êtes en moi, car il est aussi bien en toi, mon cher frère, qu'en moi, et moi en vous, et moi en vous, en le Père. Un exemple. Une véritable unité dans une réelle diversité nous est confirmée dans saint Jean, chapitre 17, verset 20. Donc, chers amis, nous arrivons maintenant au numéro 14e. La 14e, on peut bien dire, le 14e manifeste pour le chrétien, hein. Et là, nous avons l'essence des gouvernements. Oui, Dieu a établi quatre sortes de gouvernements. Le gouvernement individuel, le gouvernement familial, le gouvernement civil et le gouvernement de l'Église. Nous affirmons donc que Dieu a ordonné quatre domaines de gouvernement, celui de l'individu, celui de la famille, le civique et l'ecclésiastique. Ils ne doivent donc jamais se fondre à un seul. Ils tirent leur autorité de Dieu seul et de sa sainte parole. Tous les gouverneurs civils sont tout d'abord redevables à qui ? Redevables à Dieu tout d'abord, comme un serviteur. Et seulement alors peuvent-ils servir leurs citoyens. Tous les niveaux des gouvernements civils ont reçu le glaive pour protéger ceux qui observent la loi de Dieu et pour punir les malfaisants. Alors, si un dirigeant civil désobéit à la loi de Dieu et ainsi agissant en tyran, alors les citoyens et les autres dirigeants civils se doivent d'appeler le dirigeant désobéissant afin qu'ils rendent compte devant une cour de loi et en prière devant la cour de Dieu. Ça, c'est important. Et tous les magistrats se doivent donc d'exercer une justice impartiale par un système de cour légale indépendant. Alors, nous allons voir ce que la Bible nous enseigne, premièrement, individuel. Le fruit de l'esprit, en effet, est la maîtrise de soi. Galates chapitre 5, verset 22. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Romains 13, verset 1. Dieu se dresse en conseil divin au milieu des dieux et il juge. Et César n'a pas la totale autorité. Je répète, César, ce n'est pas César qui a la totale autorité. Saint Matthieu chapitre 22, verset 21. Et il est dit malheur à ceux qui acquittent le coupable pour un pot de vin, ça se fait aujourd'hui, souvent, et refuse à l'innocent la justice. Ésaïe, chapitre 5, versets 22 à 24, ainsi que Actes des Apôtres, chapitre 25, verset 11. Quinzièmement, nous avons l'essence de l'éducation. Les parents chrétiens ont l'autorité de doter leurs enfants avec l'éducation chrétienne de leur propre héritage. Nous affirmons que Dieu a donné aux parents la responsabilité d'éduquer les enfants qu'il a placés sous leur garde. Alors, l'éducation et la manière d'élever et de former les enfants et de les instruire selon la sagesse et selon les principes de la chrétienté biblique, comme ils s'appliquent dans tous les domaines de la vie. Alors l'éducation n'est donc pas neutre en ce qui concerne les faits, en ce qui concerne la morale, la philosophie ou la spiritualité. Parce que l'éducation chrétienne est une extension de la famille. Elle doit donc offrir l'héritage distinct, linguistique et culturel de la famille. Pour renforcer une éducation honnête et pieuse des enfants, Dieu a donné aux parents et à l'école, sous l'autorité des parents, le droit d'utiliser, parfois, quand c'est nécessaire, la baguette de la discipline. Voyons ça de plus près. Premièrement, les fils sont un héritage. Les enfants sont une récompense de Dieu. Deuxièmement, béni soit l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants ou qui ne s'assoit pas dans le siège des moqueurs. Et troisièmement, assurez-vous que l'on ne vous capture pas avec des philosophies creuses et déceptives qui dépendent de la tradition humaine et des principes de base de ce monde plutôt que de celle du Christ. Et là, vous pouvez noter Colossiens chapitre 2, verset 6, ainsi que 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. La sottise est dans le cœur de l'enfant, mais la baguette l'en éloignera. Voyez-vous, parfois, il est nécessaire de donner une petite correction. Ça n'a absolument rien à faire avec battre un enfant par méchanceté, par une rogne épouvantable ou en étant criseux. Pas du tout. Il faut bien comprendre ce que la Bible dit et ne pas y faire dire autre chose. Voyez-vous, ça n'a pas à faire avec de la vengeance, mais avec une correction qui est utile est nécessaire. Si vous laissez faire n'importe quoi à un enfant, eh bien, croyez-le ou pas, il y aura des problèmes. Et il n'y a qu'à voir les jeunes d'aujourd'hui. J'ai pas besoin de vous en dire plus. Et là, je vous prie de noter simplement deux versets, il y en a beaucoup plus, mais notez le Proverbe, chapitre 22, verset 15, ainsi que le chapitre 19, verset 18, et encore le chapitre 29, verset 15. Chers amis, nous arrivons au 16e numéro. Nous avons donc là l'essence de la loi morale. L'essence de la loi morale. En effet, les chrétiens doivent se conformer toute leur vie au principe de la loi de Dieu. C'est important cela. Et nous affirmons que les chrétiens, par leur prière et par leur témoignage, doivent opposer les plaies sociales et morales à la loi de Dieu. Nous acceptons que tous les domaines de la vie humaine doivent se conformer à la loi morale absolue de Dieu, telle qu'elle est enracinée dans les 10 commandements et expliquée et appliquée dans les principes valables et universels trouvés dans chacun des cas judicieux des lois de l'Écriture sainte. Donc, béni soit celui qui a le salut et qui comprend que le salut n'est pas uniquement par la loi. C'est vrai, le salut n'est pas uniquement par la loi, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Dieu, c'est lui qui définit la justice et l'oppression. Donc cette loi nous donne aussi les schémas pour construire des vies pieuses et un juste système sociopolitique et économique. 17e, nous avons l'essence de la protection. Les chrétiens doivent préserver et protéger responsablement la vie, la famille, les biens et la paix. Nous affirmons que que la responsabilité donnée de Dieu à tous les individus sous l'autorité légale du gouvernement civil et selon les lignes de conduite définies par Dieu est de préserver la paix et de protéger la vie ainsi que la famille et les biens. Chaque dirigeant, quel que soit son niveau à l'intérieur du gouvernement civil, est absolument responsable de la protection de ses constituants contre l'oppression. L'oppression qui les prive des droits moraux, bibliques et des devoirs de la liberté chrétienne, de la vie, de la vérité, de la famille ou des biens privés qui leur ont été donnés par Dieu selon ses lois. Soyez toujours en paix avec tous, si possible, autant qu'il dépend de vous, bien entendu, confirmé par Romains chapitre 12, verset 17. Le grand commandement, autant que les sixième et huitième commandements, implique que nous devons tout faire pour préserver la vie, la propriété et la paix. Et là, vous pouvez noter Saint Luc chapitre 10, verset 25, ainsi que Romains chapitre 12, verset 17. Ensuite, 18e, nous avons l'essence de la charité et de la justice. Les chrétiens ont un contrat d'aider le pauvre et le faible, et par le gouvernement civil, d'apporter une justice impartiale. Nous affirmons donc que les chrétiens ont une responsabilité mandatoire d'aider le pauvre par des dîmes généreuses et des offrandes afin de subvenir aux premiers besoins en nourriture et en vêtements. Toutefois, Dieu est spécialement concerné pour ces pauvres et ces exploités qui sont humbles et qui croient en lui. Alors le pauvre, la veuve, l'orphelin, l'esclave et les étrangers qui appellent son Saint-Nom devraient aussi nous concerner. La compassion pour le pauvre et le faible, ainsi que l'étranger, est le devoir des individus, des familles et des églises. Le devoir d'un gouvernement civil est d'offrir activement une justice impartiale pour tous. Voyons ça de plus près. Se trouve-t-il chez toi un pauvre d'entre tes frères? Tu n'endurciras pas ton cœur, ni ne fermeras la main à ton frère, mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras ce qui lui manque. Deutéronome chapitre 15, verset 7. Heureux qui a pitié des pauvres. Et là, vous pouvez noter Saint Matthieu, chapitre 19, verset 21, ainsi que Luc, chapitre 6, verset 35. Nous vous donnions cette règle: si quelqu'un ne veut pas travailler, eh bien qu'il ne mange pas non plus. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6, ainsi que Éphésiens, chapitre 4, verset 28. Il y a ceux qui ont un poil dans la main, pas tous, mais il y en a. Alors, ils pourraient peut-être travailler. Je rencontre des hommes qui sont probablement deux fois plus costauds que moi, mais qui sont flemmards par nature. Alors là, ce n'est pas à nous de les aider. Ils peuvent travailler puisqu'ils sont très forts. mais fainéant. Voyez-vous, il y a une différence entre celui ou celle qui est malade ou très affaibli. C'est pas du tout pareil. Et nous arrivons à 19e. Nous avons l'essence de l'intendance. Les chrétiens, en tant que serviteurs de Dieu, ont la responsabilité de nourrir la nature et eux-mêmes, bien entendu, selon la sainte parole de Dieu. Nous affirmons que Dieu est le Seigneur et il est le propriétaire de toute chose. Il a ordonné que ses intendants fidèles règnent et prennent soin et gèrent avec attention les ressources de sa création. Or, on n'a rien respecté, de sorte qu'aujourd'hui, il y aura un changement de climat qui sera une malédiction, croyez-moi, et qui a à faire avec tout ce qui va tomber sur cette humanité à la fin de cette partie de la grâce, car nous sommes sous encore un peu de temps sous le régime de la grâce, mais ça ne durera plus. Et par l'Esprit Saint, l'intendant travaille progressivement pour contrer les effets de la malédiction sur la terre qui ne sera contrecarrée qu'à la résurrection. Les intendants de Dieu acceptent sa souveraineté en aidant le travail du royaume par des dîmes et des offrandes et en se tournant vers une intendance mature par la foi et l'obéissance dans tous les domaines de la vie. Tous les intendants se doivent de vivre en accord avec l'Écriture sainte, par le corps du Christ et des chefs matures et dévots. Si ces chefs ne sont pas mûrs ou ne sont pas dévots, les croyants sont responsables pour se nourrir eux-mêmes par la prière, par l'étude de la Bible et par la camaraderie. Toute l'Écriture est utile, nous dit la Sainte Bible, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme soit apte à toute bonne œuvre. Confirmé par 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Et nous arrivons maintenant au 20e manifeste pour les chrétiens. Donc, nous avons là l'essence de la confrontation. Et nous terminerons cette deuxième partie sur l'essence de la confrontation. Et demain, nous aurons la troisième partie qui terminera donc le manifeste pour les chrétiens. Les chrétiens ont besoin de confronter les autres, avec les principes bibliques qui sont dans l'Église et qui sont les affaires du monde. Nous affirmons que c'est un besoin que de se confronter amicalement en ce qui concerne le vrai et le faux et l'injustice dans l'Église et dans le système mondial. Il est impossible pour les chrétiens de vivre selon la Bible s'ils n'ont pas l'opportunité d'admonester, d'exhorter et de se discipliner les uns les autres. et je répète, et de se discipliner les uns les autres. La discipline chrétienne est une qualité progressive pour toute congrégation et église qui choisit de vivre véritablement selon la Sainte Bible. Pour être un vrai disciple de Jésus-Christ et pour vivre selon les valeurs et selon les principes bibliques, une suite de confrontations avec les principautés et les pouvoirs sataniques et parfois même avec les dirigeants qui sont sans loi et sans scrupules de ce monde sont évidemment nécessaires. La confrontation n'implique pas de violence ou de violence, il n'y a pas de conflit violent par des gens avec des pouvoirs humanistes. Nous n'allons pas nous bagarrer avec eux. Et par des idées qui sont absolument pas bibliques, qui du reste menaceraient la façon chrétienne de vivre. Et cela implique que les chrétiens doivent enseigner, ils doivent démontrer et ils doivent appliquer, selon les réponses bibliques positives, les questions d'ordre ecclésiastique, social, politique et économique. Chers amis, nous allons donc arrêter cette deuxième partie ici. Et demain, nous aurons donc la troisième partie qui terminera ce manifeste très important qui sont pour tout un chacun qui se proclame de la chrétienté. À bientôt à nouveau, mes chers amis, au revoir et merci pour votre intérêt à ces études. Au revoir.